Hindi na ba patunggal yung abita na yun?
Bonsoir, célébration du 50e de l'indépendance de la RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, recommande que le Congolais soit placé au centre de l'action politique pour un Congo nouveau et prospère. Comment analyser cette recommandation des évêques congolais et que faire pour la concrétiser? Participe à cette émission Abbé Léonard Santélis, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. Bonsoir, monsieur l'abbé. Albert Mpeki, député national MLC et président de la sous-commission coopération internationale à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Modeste Bahati Lukwebo, député national et président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vos réactions, nous les avons déjà. Blaise Osongo de Kamanga au Kassai occidental. La CENCO est certes la voix du Congolais misérable, mais elle n'a pas de moyens pour contraindre les gouvernements d'assumer leurs obligations. Kim de Kisangani en province orientale, certes le droit de regard de l'Église sur la gestion du pays est très nécessaire, mais peut-elle faire elle-même la lecture des religieux qui ont présidé à la destinée de certaines institutions telles que le Parlement de transition à la CNS ou la Commission électorale indépendante sans controverse ni remous? Merci de nous suivre à Matadi dans la province du Bas-Congo sur 102.0 FM et partout au monde sur radiocopie.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Avant d'aborder le sujet du jour, il y a l'information du jour également, c'est l'arrivée du roi Albert II cet après-midi à Kinshasa. Le roi va assister mercredi aux festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Cette visite est une première depuis 25 ans dans l'ex-colonie belge. Le souverain belge, accompagné de son épouse, la reine Paola, a été accueilli à l'aéroport de Ngili par le premier ministre congolais Adolphe Mozito. Dans sa suite, il y a le premier ministre démissionnaire Yves Leterme. Albert II a été reçu en fin d'après-midi au palais de la Nation par le président Joseph Kabila. Pour rappel, le dernier voyage d'un roi belge remonte en 1985 avec le roi Baudouin, père d'Albert II. Je vous demande juste un commentaire, monsieur l'abbé Léonard Santélis.
Juste un commentaire.
Qu'est-ce que cette visite représente pour vous?
Alors, c'est dire que l'événement que nous célébrons est de taille et d'un grand enjeu, le jubilé 50 ans. Et c'est dire aussi que le Congo est au cœur de l'attention de la communauté internationale. Et c'est dire aussi que c'est une grande symbolique, une belle symbolique que le roi de Belgique puisse visiter notre pays en ce moment. Et nous espérons que cela apportera de notre part une bonne lecture pour envisager le pays de la meilleure manière qu'il soit.
Honorable Albert Mpeki.
Oui, bon, je pense que Sa Majesté le roi de Belgique est avant tout un chef d'État. C'est le chef d'État du royaume de Belgique. Il répond à une invitation d'un pays ami pour fêter les 50 ans de notre indépendance. D'autant plus que la Belgique était la puissance colonisatrice. Ceci dit, je pense qu'il est trop tôt pour démoder encore la visite, la présence de Sa Majesté le roi de Belgique ici au Congo. Mais je pense que c'est protocolaire et il faut attendre après la visite de Sa Majesté le roi de Belgique pour décoder ce voyage.
Alors abordons notre sujet du jour, que le Congolais soit placé au centre de l'action politique pour un Congo nouveau et prospère, c'est l'essentiel de la recommandation des évêques catholiques rendue publique ce samedi 26 juin. C'est à l'issue de la session ordinaire de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Pour les évêques catholiques, cette recommandation s'inscrit dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC en vue d'un futur heureux. Pour le président de la CENCO, Mgr Nicolas Diomo, 50 ans après l'indépendance, le rêve des pères de l'indépendance a été brisé, faute des hommes politiques capables de répondre à leurs obligations. Ainsi, le président de la CENCO plaide pour la formation d'un homme nouveau en RDC. On écoute Mgr Nicolas Diomo au micro de Jacques-Yves Molima.
c'est qu'enfin après, en dépit de tout ce qu'on peut signaler comme positif, dans l'ensemble, le fait constate que ce rêve s'est retrouvé brisé dans la mesure où le pays a plutôt reculé que d'avancé. Le peuple congolais se trouve dans des conditions et vit dans des conditions difficiles. Et pour les 50 ans à venir, les évêques recommandent de former un nouvel homme avec un nouvel esprit, avec une nouvelle mentalité, laquelle, celle qui place le Congolais au centre des préoccupations. Ils n'ont pas de dirigeants qui se tournent davantage vers leurs intérêts privés.
Monsieur l'abbé Léonard Santidi, nous allons essayer de décortiquer un peu ce message des évêques catholiques en tant que Congolais. Je vous cite un extrait de ce message au point 6. En ce moment de grâce, au nom de notre Église, nous demandons humblement pardon au Seigneur et à notre peuple pour tous les manquements des fils et filles de l'Église. Peut-on considérer à ce niveau-là, monsieur l'abbé, que par-delà, hein, le peuple congolais, l'Église catholique est en train de dresser son propre bilan 50 ans après?
Je crois que l'Église catholique prend les jubilés dans son sens même biblique, qui est un moment de grâce. Vous savez, le jubilé dans l'Écriture sainte est un moment de remise de dettes, de relax des esclaves, afin de permettre à tous les habitants de reprendre la vie avec espérance et dans la liberté. Et c'est dans ce sens-là que les évêques ont dit, les jubilés pour nous, c'est le moment où tout le monde essaie d'évaluer la vie, et pour nous, 50 ans. Et dans ces 50 années, on doit se dire que nous n'avons pas toujours tous fait ce que nous devons faire. Et donc, en ce moment-là, l'Église, qui est évangélisatrice, est la première à être évangélisée. Et les évêques disent, dans ce contexte du jubilé, eh bien, pour les fautes commises par les fils et filles de l'Église, nous demandons pardon. Nous demandons justement au Seigneur qui, lui, nous a rachetés de nos fautes, nous fasse revivre pour que réellement l'Église prenne sa part dans la construction de ce Congo plus beau qu'avant.
Alors, l'Église n'est-elle pas en train de justifier certaines de ses erreurs?
Il n'y a pas là à justifier des erreurs. Il y a là un appel à un élan nouveau. Vous savez, l'Église a accompagné ce peuple pendant 50 ans. Vous savez, l'Église a été blessée aussi en son sein. Elle a perdu des hommes, des femmes, des pasteurs, des prêtres, des religieux, des évêques. Elle a accompagné ce peuple jusque dans sa souffrance. Eh bien, elle est témoin de la clameur de ce peuple et elle invite alors le peuple congolais à ce nouvel élan, à ce sursaut, cet appel mobilisateur pour que réellement, en regardant vers l'horizon, les 50 années à venir ne soient pas comme les 50 années que nous venons de vivre. Et en ce sens-là, l'Église est engagée dans ce mouvement-là. Elle ne peut pas se sentir en dehors. Et dans ce mouvement-là, elle dit, il y a certainement beaucoup de choses qu'elle a accomplies, il y a certainement beaucoup de choses qu'elle a données et qu'elle continue à donner pour ce pays, il y a certainement aussi des choses qu'elle n'a pas pu faire, pour lesquelles elle demande pardon au Seigneur et au peuple congolais.
Alors, sur le plan de la vie politique, je lis dans ce texte que j'ai sous les yeux, une logique du pouvoir contraire aux idéaux de l'indépendance. Qu'est-ce que cela veut dire, M. Labbé?
Cela veut dire que les héros de l'indépendance rêvaient de la grandeur de ce pays et de sa prospérité. On peut lire tout simplement la déclaration du Premier ministre, alors Lumumba, les 30 juin, il dit ceci, « Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. » Au regard de ce rêve, est-ce qu'on peut dire que l'action politique à aider à faire de ce Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Est-ce qu'on peut dire que l'action politique a veillé à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement aux Congolais? Est-ce que l'action politique s'est engagée à mettre ce peuple résolument au travail et à créer une économie nationale prospère? Nous ne nous voilons pas la face, je crois que les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Alors les évêques disent justement que cette logique-là qui a été contraire aux idéaux, à ce grand rêve de faire de l'indépendance, de faire de ce pays, de ce Congo, un pays plus beau qu'avant, un pays au cœur même du rayonnement de l'Afrique. La logique qui a présidé à l'action politique n'a pas été celle-là de travailler au rayonnement de ce Congo.
Honorable Albert Mpeti, comment vous analysez ce message des évêques catholiques du Congo?
D'abord, je voudrais vous remercier pour avoir invité et je me sens tout à fait à l'aise dans cette émission. Pourquoi? D'abord, je suis un chrétien engagé dans la politique et comme le disait le cardinal Ekaou, nous sommes vos bergers, vous, nos chrétiens, engagés dans la politique, vous devez faire la politique autrement que les autres. Et c'est un message qui m'est resté droit au cœur. Par ailleurs, étant du MLC, je suis senti à l'aise en participant à cette émission. Pourquoi? Parce que le MLC, c'est par notre devise, avec Dieu, nous vaincrons. C'est un message fort. Par ailleurs, nous sommes membres de l'international du centre, qui était autrefois l'international démocrate chrétien. Donc, l'international démocrate chrétien. Donc, j'ai tout à fait à l'aise en participant à cette émission. Ceci étant, c'est vrai que l'Église aujourd'hui interpelle notre conscience en tant que politique. Et il fait son devoir. Mais nous devons aussi dire que, avant toute chose, que l'État est laïque et républicain. Mais l'Église catholique, en particulier, use de son devoir comme une institution morale pour attirer l'attention des acteurs politiques que nous sommes. 50 ans d'indépendance, qu'avons-nous fait de cette indépendance? Qu'avons-nous fait de tout ce que le Seigneur nous a donné, les bienfaits de cette terre? Qu'avons-nous fait de ça? Et un jour, je pense que devant lui, devant le Seigneur, nous posons la question. C'est ainsi que je pense que, effectivement, 50 ans après l'indépendance, il y a lieu de s'interroger. C'est l'occasion, avec tout ce que nous avons connu, avec les coups d'État, avec les guerres à répétition, avec la corruption généralisée, avec le pillage de notre pays, il était temps que, il nous fallut que le politique congolais ait un sursaut d'orgueil. Je pense que c'était un moment pour nous, un moment où nous aurions pu appeler à une véritable réconciliation nationale pour repartir de nouveau. Sans réconciliation nationale, je peux vous dire que nous n'irons nulle part. Il nous faut d'abord aller vers cette réconciliation nationale. Et les 50 ans, ce cinquantenaire, c'était vraiment l'occasion que le Seigneur nous offrait pour que nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes, avec la population et surtout les acteurs politiques. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que les Congolais nous sommes réconciliés sur le plan politique. Et c'est ça qui me fait peur pour l'après 30 juin. L'après 30 juin, c'est quoi? Sans réconciliation, j'ai bien peur qu'on retombe encore dans les erreurs du passé.
Honorable Modeste Bahati, bonsoir. Vous êtes député national et président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale. Dans le message des évêques, je vous lis un extrait. Malgré des avancées, le bilan global peut se résumer par 50 années de tribulations et d'opportunités manquées. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je partage totalement ce point de vue et j'ai eu à le dire à d'autres occasions parce que j'estimais que, effectivement, les 50 ans ont été 50 ans de gâchis. Quand vous regardez ce que le colonisateur nous a légué, lorsque vous regardez ce qu'était la moralité des Congolais, parce que le grand problème c'est au niveau de la moralité, vous vous rendez compte qu'effectivement nous avons détruit notre société. Donc, sur le plan moral, à partir du moment où on a perdu les repères, avec tout ce qu'il y a comme star, anti-valeur, la corruption, l'injustice, le népotisme, la mauvaise gouvernance, eh bien, il faut bien dire que ce que les évêques ont dit, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils le disent, hein, et donc je considère que, effectivement, c'est une lecture correcte qui appelle de notre part une méditation pour que cette fois-ci, après le 30 juin 2010, ne puisse plus réformer avant le 30 juin 2010.
Alors, honorable, vous dites que ce n'est pas la première fois que les évêques hein, font ce genre de déclaration. Peut-on dire à ce niveau que les évêques prêchent dans le désert?
Bon, vous savez, ce sont des pasteurs, on ne peut pas se fatiguer. Ce n'est pas parce que votre enfant dans la maison continue à commettre des bévues que vous allez justement, je l'abandonne totalement. Je pense qu'il est de leur devoir de continuer à interpeller. Je suis sûr que lorsqu'ils le font, il y a sûrement un petit nombre de gens qui changent positivement, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un grand nombre de gens qui changent, et en commençant par les dirigeants.
Un autre extrait, honorable Modeste Bahati Lukwebo, de ce message, c'est le point 13. Hein, on préfère la légitimité des alliances politiques et militaires à celle que confère un service loyal du peuple. Vous êtes quand même aussi le fruit des alliances politiques, n'est-ce pas?
Non, moi, en tant que député, je suis issu des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc, le temps des alliances est révolu depuis la longue période de transition. Vous voulez faire allusion à l'alliance AMP, PALU, IDEMO. Ça, c'est une alliance pour la gouvernance. Mais tous doivent d'abord détenir la légitimité du peuple avant de venir à la table de ces alliances-là. Donc, vous comprenez que nous sommes dans la logique de la légitimité conférée par le peuple souverain.
Monsieur l'abbé Santidi, les évêques sont-ils en train de prêcher dans le désert?
Absolument pas. L'honorable Bahati l'a dit, et tous les pasteurs le disent. Vous savez, déjà, il est dit dans l'Écriture sainte, le pasteur doit parler, il ne doit pas se fatiguer de parler. Qu'on l'écoute ou qu'on ne l'écoute pas, on saura que le pasteur, que le prophète a parlé.
Et donc, il disait quelquefois le fouet comme le Christ.
c'est pas cela. Donc, il y a d'abord le devoir du prophète de ne pas se taire, d'annoncer à temps et à contre-temps le message, de réveiller le peuple, de réveiller ce qu'il écoute, ce vers qui il est envoyé. Il y a d'abord cela. Et ensuite, il y a aussi, comme on dit, à partir de la parabole du semeur, vous savez, le semeur jette la semence, il y en a qui tombent dans une mauvaise terre, dans un endroit pierreux, dans les épines, mais il y en a quand même qui tombent dans une bonne terre et qui donnent des fruits. Et donc, nous savons que, en parlant ainsi, il y a ceux des politiciens, des acteurs politiques qui écoutent, qui se sentent interpellés. Et l'Église, d'ailleurs, félicite et encourage ceux-là. Ils conçoivent leur engagement politique comme un service pour servir le peuple et non se servir. Ceux-là qui conçoivent leur engagement politique comme un service du bien commun. Eh bien, il faut les encourager, il faut les féliciter. Par ailleurs, ceux qui trahissent alors leur foi baptismale et qui continuent ainsi donc à déshonorer même l'Église, eh bien, le pasteur, le prophète ne s'arrêtera pas à parler à leur conscience, à les interpeller. L'Église n'a peut-être pas de moyens de coercition, mais elle interpelle la conscience et elle espère, c'est ça justement l'espérance chrétienne qui est l'antidote à toutes les fatalités, à tous les pessimistes, elle espère que malgré tous ces tableaux négatifs, malgré toutes les pesanteurs, eh bien, nous pourrons relever les défis.
Je reviens, M. l'abbé, sur cette réaction de Tim de Kisangani en province orientale, réaction que j'ai lue en début d'émission. Certes, le droit de regard de l'Église sur la gestion du pays est très nécessaire, mais peut-elle faire elle-même la lecture des religieux qui ont présidé à la destinée de certaines institutions telles que le Parlement de transition, la CNS ou la Commission électorale indépendante sans controverse ni remous?
Eh bien, le moment ici n'a pas été celui de faire, disons, le procès des individus, de faire le procès de qui que ce soit. Nous sommes à un moment qui doit être un moment fondateur, la refondation du Congo
à partir de cette kairos, de ce moment favorable qui est le jubilé. Eh bien, en ce moment-ci, ce que les évêques disent, c'est de regarder tous droit vers l'horizon. C'est de prendre le plus bel élan pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et pour cela, alors il faut retenir aussi les leçons du passé, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Voilà pourquoi l'Église, tout en interpellant les acteurs politiques, tout en interpellant la population elle-même, ne s'ignore pas, et nous avons commencé par dire que l'Église elle-même demande pardon pour ce que ses fils et ses filles ont pu commettre, ont pu faire, qui n'a pas été dans le sens, justement, de la construction du pays. Et donc là, l'Église, justement, ne s'impose pas tout simplement comme moralisatrice en s'adressant aux autres, regarde elle-même sa vie. Et c'est dans ce sens-là que s'inscrit ce pardon demandé devant le Seigneur, au peuple congolais, demander au Seigneur. Mais ceci dit, cela ne nous dédouane pas, cela n'empêche pas l'Église, comme mère et éducatrice, de continuer à éduquer ses enfants, ses fils et ses filles, de continuer à parler à la conscience de ce peuple, de continuer à interpeller ceux qui doivent gérer la chose publique, pour qu'on puisse lui dire, voilà encore 50 années dégagées. Et là, c'est la responsabilité des prophètes.
Honorable Ampéti, je vous lis le point 18 du message des évêques. Quant à l'exercice de la justice, malgré quelques avancées, le pouvoir judiciaire ne jouit toujours pas de l'indépendance ni de moyens pour son exercice loyal. Il ne pourrait exister de justice que moyennant son indépendance, des moyens financiers proportionnés et surtout des hommes et des femmes au-delà de tout soupçon et capables de dire le droit dans le respect des procédures.
Mais écoutez, j'adhère tout à fait à cette analyse. Je pense que ce qu'il nous faut autour de ce débat sur le cinquantenaire, c'est qu'en fait, il faut réhabiliter l'action politique des acteurs politiques congolais. Si nous ne procédons pas à la réhabilitation de l'action politique d'une manière générale, en passant par la justice, par le respect des droits de l'homme, par le respect du droit commun tout court, eh bien, je pense que nous ne ferons que reculer, nous n'avancerons pas. Donc, je pense que il est temps que ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui changent de langage et passent aux actes concrets. Et surtout, et j'insiste beaucoup sur le mot réconciliation. Tant que nous n'aurons pas une véritable réconciliation, et que nous devons avoir une espèce d'exorcisme pour sortir de ce carcan où nous sommes embourbés, nous les politiques congolais. Nous sommes dans la jouissance politique, nous sommes dans la jouissance tout court, nous sommes dans la corruption, nous voulons la facilité, l'enrichissement sans cause, nous voulons tous les aspects extérieurs de richesse, nous voulons l'étalage de ces richesses qui appartient au peuple. Et je pense que c'est le moment pour nous les acteurs politiques de changer notre comportement, de changer la façon de faire la politique, bref, changer et réhabiliter notre action politique pour que nos enfants qui viendront, les générations futures, puissent connaître autre chose et profitent pleinement des richesses que le Seigneur nous a données.
Il y a l'honorable Diane Paula du Firo en province orientale qui dit « Les évêques ont pleinement raison parce que les politiciens ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes. Je pense que la concrétisation de cette volonté des évêques se fera lors des prochaines élections. » On a souvent vu, honorable Mpéti, lorsqu'il s'agit des intérêts de famille politique, les intérêts de la population sont même sacrifiés.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde s'improvise politique. Politique, pourquoi? Parce que c'est peut-être le moyen le plus rapide pour un enrichissement sans cause, comme je l'ai dit, rapide. Mais, en fait, la politique, pour moi, je le conçois comme un apostolat. Regardez des pays comme certains pays avancés en démocratie. Ne gouvernent pas qui veut. On prend des personnalités qui ont des compétences, qui ont qui sont reconnus pour leur qualité humaine, qui sont reconnus pour leur moralité. Et ces personnes-là accèdent à certaines responsabilités. Or, c'est nous, n'importe qui vient et fait la politique. On ne place pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Les forces de sécurité sont utilisées pour des fins personnelles ou pour des fins partisanes. Au lieu de protéger les populations ou les biens des populations, non. Les forces de sécurité briment, tuent, assassinent et prennent les populations. Et ça, je pense que c'est ça aussi un grand tort que les politiques congolais font au détriment de la population. Mais je pense que, et j'insiste encore, pour les cinquantenaires de notre pays, tant que ceux qui détiennent le pouvoir, et ils devraient d'ailleurs en sortir grandis, n'iront pas vers une véritable réconciliation nationale, eh bien je crains que, après le 30 juin, que nous retombions rapidement dans nos travers.
À vous entendre parler, aucune démarche n'a été menée dans ce sens-là.
Non, aucune démarche. Aucune démarche. Je pense que nous pouvons penser autrement que ceux qui détiennent le pouvoir. Mais la base essentielle, c'est la réconciliation nationale. Je vais vous parler rapidement, par exemple, de ce qui se passe à travers le monde. À travers le monde, lorsque un ressortissant d'un pays est en difficulté ailleurs, on voit son État, son gouvernement se mobiliser pour le sortir de ses difficultés. Mais on a l'impression que ici, dans notre pays, lorsque un Congolais est pris en Angola ou ailleurs, on se pose la question, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? C'est son problème. Alors que le devoir de l'État, c'est de le sortir de là. Et là, je voudrais atterrir sur le cas de Jean-Pierre Bemba. Le sénateur Jean-Pierre Bemba, le président national, on doit quand même reconnaître que cette personnalité a fait plus de 7 millions de voix. Et aujourd'hui, il est arrêté. On sait que c'est une affaire purement politique. Quel fait, lorsqu'il était le pouvoir, qui ont la charge de veiller sur les Congolais? Vous parlez de la justice. La justice dans notre pays. Vous savez, la justice aujourd'hui, elle ne marche pas du tout. Elle n'est pas du tout indépendante. La justice aujourd'hui, c'est le plus fort. C'est lui qui a de l'argent, c'est celui-là qui a.
Terminez votre phrase, hein, on va redonner la parole à Modeste Daïti.
Donc, la justice aujourd'hui est instrumentalisée par ceux qui détiennent le pouvoir.
Honorable Bahati, l'honorable Mpeki ne cesse d'insister sur la réconciliation. Comment vous percevez ce message?
Oui, à un moment donné, nous avons tous prêché la réconciliation. Surtout lorsque le pays était divisé, lorsqu'il y avait des administrations parallèles. Mais je crois que la meilleure réconciliation doit se faire autour de la République. C'est-à-dire que si tout le monde respecte la loi, si tout le monde sait que rien et personne ne peut être au-dessus des lois, c'est une véritable réconciliation. Et il a parlé de l'indépendance de la justice. Je reconnais effectivement que la justice n'est pas indépendante dans la mesure où on voit qu'il y a des choses flagrantes qui se passent et bon, parfois la justice est on publie dans les journaux des cas de détournement, la mauvaise exécution du budget de l'État et la justice ne fait rien. Moi, je pense que pour ce qui est de l'indépendance, si j'ai quelque chose à dire, c'est de dire que toute indépendance s'arrache. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas que les magistrats, les juges et autres attendent qu'on puisse leur donner l'indépendance. Déjà par les lois, ils ont l'indépendance. Mais maintenant, c'est à eux de l'arracher pour la mettre en pratique. On a vu ce qui s'est passé dans notre pays, en Italie, en France. Et juste une loi, lorsqu'ils croient qu'il y a quelque chose qui émerge de la loi, ils prennent responsabilité et ils vont de l'avant, même si cela n'agrée pas l'autorité politique. Je crois que l'indépendance, c'est une affaire qui doit s'arracher et il faudrait effectivement qu'il y ait des séminaires pour à l'intention de nos magistrats pour qu'ils comprennent que personne ne viendra leur donner l'indépendance. Voilà ce que je peux dire sur les deux points concernant la réconciliation et concernant l'indépendance de la magistrature.
Le point 17 du message des évêques, honorable Bahati, dit il est fort déplorable que la la RDC soit obligée de saluer l'emblème d'or de sa souveraineté pour ses 50 années sans une armée vraiment républicaine capable de défendre la sécurité de ses habitants et l'intégrité territoriale contre les projets persistants de sa balkanisation. Mais on a l'impression qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous traînez un peu les pieds en ce qui concerne les lois sur la réforme de l'armée.
Mais écoutez, monsieur le journaliste, vous voulez dire que les lois ont manqué dans ce pays, que c'est ça qui a fait qu'on n'a pas une armée dynamique? Non, ce n'est pas un problème de texte. Même aujourd'hui, nous sommes sur les lois de la réforme de l'armée et qu'on sort. Je suis sûr que si on n'a pas de volonté politique, si on n'a pas de détermination, rien ne va changer de manière substantielle. On va juste faire de nouvelles mises en place, accorder de nouveaux grades et tout ça. Mais la mentalité, qui est la première part sur laquelle il faut agir, n'aura pas changé. Et deuxièmement, quand nous parlons de l'armée, mais ça, ce sont des conséquences de la mauvaise gouvernance. L'armée n'est pas différente des autres services publics de l'État. Quand vous allez dans l'administration publique, la magistrature, l'armée, la police, mais tout cela est gangréné à cause de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est quoi? C'est le fait que le peu de ressources dont on dispose, on ne les affecte pas correctement. Parce que si les ressources étaient affectées correctement, le fisc, le respect de l'exécution du budget, l'armée aurait sa part, les fonctionnaires auraient leur part, et les autres services auraient leur part. Mais vous constaterez que ce sont des dépenses imprévues qui prennent le dessus sur les dépenses prévues au budget. Alors, comment vous voulez avoir une armée si vous n'y mettez pas les moyens?
Alors, avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, honorable Bahati, le point 28 du message des évêques, le sous-développement s'explique en grande partie par l'absence d'un plan de développement digne de ce nom. Le pays est sous perfusion.
Oui, mais vous savez très bien que nous sommes là en train de nous contenter de l'initiative PPE. Et ce qui est un paradoxe, c'est inacceptable. Lorsque vous regardez le tableau de Mendeleïev, vous voyez que notre sol et notre sous-sol regorgent de tout ce qu'on peut compter comme richesse souterraine. Mais lorsque des individus viennent armés ou bien des trafiquants, en peu de temps, vous apprenez que, en allant à Walikale, en allant à Tanga, ces gens-là ont fait des milliards. Quand vous lisez le rapport, le panel de Nations Unies, des experts de Nations Unies. Mais comment peut-on expliquer que nous, État congolais, qui sommes les propriétaires de ces ressources, nous devons pauvres. Mais lorsque quelqu'un vient tricher, vient piquer un petit lien chez nous, en l'espace d'une semaine ou de quelques mois, il a des milliards. Mais il y a quelque chose qui nous empêche. Regardez, nous avons le pétrole. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'exploiter le pétrole? Et d'ailleurs, moi, je suis content qu'on ait finalement libéré ce dossier du pétrole, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le pétrole soit exploité. Qui celui-là qui va être choisi pourvu que le pétrole soit exploité pour que nous ayons suffisamment de ressources dans les caisses de l'État? Il n'est pas normal que nous soyons là assis comme une vieille femme assise sur un puits de diamant et qui est en train de commander le monde. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, on dirait une sorte de malédiction.
Monsieur l'abbé Santébi, que faire pour concrétiser les recommandations les éléments contenus dans ce message de la SEMCO? En 5 points, la SEMCO résume pratiquement ses voeux. Premièrement, raviver l'espérance de notre peuple. Deuxièmement, adopter un idéal politique de service. Promouvoir une économie au service de l'homme. Replacer l'éducation au cœur de nos priorités. Et enfin, forger une nouvelle mentalité. Vous avez suivi tout à l'heure l'honorable Bahati, ce ne sont pas les lois qui manquent, mais que faudra-t-il de plus pour que tout ceci soit concret?
Bien, en ce qui concerne la mission de l'Église, la première chose, la priorité, c'est d'abord raviver l'espérance. C'est-à-dire, les évêques disent, à partir de ces tableaux négatifs, on peut être tenté par le défaitisme et dire, ça ne vaut pas la peine, nous avons échoué, il n'y a rien à faire. Eh bien, les évêques disent d'abord non. Il faut raviver l'espérance dans les cœurs des Congolais. L'espérance chrétienne, c'est l'antidote à toutes les fatalités, à tous les pessimismes. Et l'espérance chrétienne nous dit qu'il y a toujours avec Dieu quelque chose de nouveau qui peut advenir. Et cette espérance interpelle la responsabilité de l'homme. Il faut donc et là les évêques d'ailleurs dénoncent toutes ces religiosités, ces spiritualités qui déresponsabilisent l'homme en le détournant de sa mission de construire la cité terrestre. Ceux qui disent nous allons faire ça là, non, les évêques disent d'abord l'espérance chrétienne nous invite à nous engager, quelque chose est possible, et ils disent haut et fort l'avenir du Congo dépend d'abord des Congolais. Ensuite ils disent alors il faut renverser les choses. Si la politique a été dans une logique contraire aux idéaux de l'indépendance, il faudrait alors une politique qui soit pour le service du bien commun, pour le service de la nation. Les politiciens que nous voulons pour demain sont ceux-là qui craignent Dieu, les évêques insistent, et qui aiment notre nation jusqu'au bout. Ils s'engagent alors pour le service du bien commun. Il faut aussi une économie qui soit une économie au service de l'homme. On a parlé de l'homme congolais qui est négligé. On a parlé des ressources naturelles, de nos minéraux. Eh bien, ça sert à qui? À une petite minorité de ceux qui s'enrichissent au détriment de la population. Donc, il faut une économie au service de la population. Alors, les évêques disent, il faut maintenant aussi l'éducation. Un pays qui veut se mettre sur le chemin du développement ne doit pas négliger la formation de l'homme, l'éducation. Il faut éduquer. Et là, l'Église aussi s'engage à former cet homme. Non pas, il y a seulement, je dirais, des ressources intellectuelles, mais aussi morales et spirituelles. Il faut mettre l'éducation au cœur de nos priorités. Et là, concrètement, alors, les évêques demandent à l'État de donner les moyens appropriés à l'éducation, d'allouer à l'éducation un budget conséquent, parce que là, jusque-là, on sait que l'éducation a quel pourcentage dans le budget. Il faut, enfin, ils disent qu'il faut un changement de mentalité, il faut une nouvelle culture.
Honorable Albert Mpeti, que le Congolais soit placé au centre de l'action politique pour un Congo nouveau et prospère. Quelles sont vos propositions pour que ça ne reste pas qu'un rosaire de bonnes intentions?
Et vous savez, c'est un vaste programme. D'abord, je crois qu'il y a l'homme congolais, lui-même, qu'il faut changer. Il faut changer sa mentalité. Il faut que l'homme congolais ait une autre vision. Que l'homme congolais doit s'affirmer. Aujourd'hui, l'homme congolais est totalement déstabilisé. Vous savez, au quotidien, vous êtes dans une famille. Vous voyez des cancrelats qui passent. On crie sans effet, sans effet. On va jusqu'à craindre le cancrelat. Et on doit lui expliquer pourquoi il y a des cancrelats. Commencez par nettoyer, mettre la propriété sur vous pour qu'il n'y ait plus de cancrelats. Mais on fait croire aux Congolais que c'est des mauvais esprits. Vous voyez, nous sommes descendus tellement bas que tout est à refaire. On doit éduquer l'éducation. L'éducation est un chantier important. Parmi les cinq chantiers dont on nous parle, dont on nous rabâche les oreilles, l'éducation aussi est là. Mais on ne voit rien de concret. Je pense que mes collègues Bahati, qui fait partie du pouvoir, dans le cadre de l'ANP, ne dira pas le contraire, que ce chantier-là est un chantier mort-né d'éducation. Or, c'est par là que nous devons repartir pour justement avoir le nouveau Congolais. Tant que nous n'allons pas revoir tout le système éducatif que nous avons, eh bien, nous ne pourrons pas avancer. Donc, comme je disais, c'est un vaste programme. Il y a ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ont-ils une vision de ce Congo? Le font-ils de leur richesse? Pensent-ils au vécu quotidien de compatriotes congolais que nous sommes? Lorsque je circule à Kinshasa, quand je vois ces grappes humaines qui marchent parce qu'il manque de transport, lorsque je vois le matin tous ces enfants qui vont, le bleu-blanc, qui vont à l'école, tous ces enfants, quel avenir, quelles entreprises, quelles sociétés le pouvoir actuel prépare pour ces générations qui vont venir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et je suis bien content
d'entendre mon estimé collègue qui, étant du pouvoir, être très critique vis-à-vis de ce pouvoir. Mais je pose la question, pourquoi est-il encore dans ce pouvoir? Il devrait avoir l'audace politique de quitter ce pouvoir et de nous rejoindre à l'opposition.
Honorable Modeste Bahati, vos propositions ainsi que votre réaction à cette pierre qui vous est lancée par l'honorable Mpétu.
Oui, l'honorable Mpétu me fait rire parce que il croit que moi je vais quitter le pouvoir pour aller dans l'opposition. Non, le problème n'est pas là. C'est-à-dire que le chrétien, il agit à partir de là où il est. Moi, je vais vous donner quelques exemples. Lorsque j'étais ministre du budget, tout le monde sait quel est le travail que j'ai abattu. Quand j'étais à la fonction publique, j'ai pris le courage et le risque énorme d'aller contrôler la paye des militaires pour la première fois dans ce pays. Et on a récupéré des milliards et des milliards qui étaient détournés par les agents chargés de la paix. Cet argent a été reversé à la Banque centrale. Les bourbons sont là, c'est vérifiable. Je crois que quand on est chrétien, quel que soit le lieu où on se trouve, on va faire la différence. Vous nous avez suivi des verbes, nous avons dit, il y a quelque chose à part. Au sein de l'AMP, nous devons nous arrêter, nous devons réfléchir, nous devons engager le débat. Bon, cela a été mal pris par certaines personnes, mais écoutez, le temps va nous donner raison. C'est ça le chrétien. Le chrétien doit savoir prendre les risques. Ce n'est pas être là en train d'applaudir et bénéficier des avantages du pouvoir. Parce que moi, je ne suis que député, je n'ai pas un poste de gestion. Mais je trouve que le peuple, ou la portion du peuple qui m'a élu, attend de moi des résultats concrets. Et ces résultats, je ne peux les obtenir qu'à partir de ceux qui ont la gestion de la chose publique, c'est-à-dire le gouvernement. Lorsqu'on nous élit, on nous demande d'arranger le port, les écoles, les hôpitaux et tout ça. Mais tout cela, ce n'est pas le député qui doit le faire, c'est le gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes très critiques, même si par exemple, dans la majorité, et nous sommes très critiques. Et c'est pour cette raison que nous avons dit, même au sens de l'État, que ces critiques-là sont à son avantage, c'est à l'avantage du peuple. Parce que quand tu as des critiques, on change de méthode de gestion et on apprend les fruits. Les fruits, c'est nous qui allons les récolter. Les fruits, c'est nous, députés, qui allons les récolter. Et les effets, c'est le peuple. Les effets positifs, c'est le peuple qui va en bénéficier. Donc, moi, le fait d'être critique, déjà, je pense que j'ai une indépendance d'esprit, que je ne suis pas les voter. Et que j'agis en tant que chrétien, j'agis en tant qu'indépendant, membre de la société civile, et c'est ça, la ligne de conduite, c'est ça, nous sommes en département. Donc, en fait, il ne doit pas considérer mes positions comme étant des positions proches ou qui vont vers l'opposition. Moi, je ne suis pas de l'opposition, je suis mon choix, et j'en suis fier,
mais merci,
je
suis
là où je suis.
Merci, Nora. Monsieur Labbé a senti dire dans les conclusions, la conclusion de ce message, le point 55. Pour signifier ce nouveau départ en cette année du jubilé, une année de grâce, de relax, des esclaves, la libération des opprimés, l'Église demande la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Ce sera aussi votre conclusion.
Oui, l'Église demande cela, justement, en prenant en compte le sens même du mot jubilé, comme je l'ai dit, à partir du livre de Lévitique, mais aussi en Luc 4, où le Seigneur vient proclamer une année de grâce, libérer les opprimés, rétablir le monde dans la paix. On a parlé tout à l'heure de la réconciliation, on a parlé de la paix, on a parlé donc du jubilé comme un moment de grâce. Alors c'est en ce sens-là que l'Église demande que ce geste soit posé en partant même du sens du mot jubilé. Ce n'est pas simplement se réjouir, mais se vivre un nouvel esprit, un nouveau moment. Et enfin, alors l'Église demande justement aussi l'érection de ces mémorials à Kinshasa dans les provinces pour que ce jubilé reste et soit un moment décisif de choix pour bâtir autrement l'avenir.
Honorable Mpéti, en un mot, votre conclusion.
La conclusion, je suis triste parce que, une fois de plus, c'est un rendez-vous manqué. C'était l'occasion qui nous était offerte pour avoir une véritable réconciliation nationale entre filles et fils de ce pays pour reconstruire notre pays.
Honorable Bahati, conclusion en 15 secondes, je vous en prie.
Oui, en guise de conclusion, je crois que pour revenir au message des évêques, moi je l'ai approuvé totalement et dans ma vision des choses, tout ce que je peux dire, il faut que quelque part nous ayons de l'amour pour nos autres prochains.
Merci honorable, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci monsieur l'abbé, merci honorable Mpiti d'y avoir participé. Restez branchés sur Radio Capi.
Oh,